Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Partout, votre foi en Dieu s'est fait si bien connaître que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. Car vous vous êtes convertis des idoles au Dieu vivant et vrai, pour le servir, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous sauve de la colère qui vient, de la colère à venir. Saint Paul loue les catholiques de Thessalonique de leur conversion à ce Dieu vivant et vrai. Et il manifeste par ailleurs que c'est le culte des idoles qui va provoquer chez Dieu cette colère qui vient. Nous avons vu la dernière fois comment la propagande républicaine et comment l'idole de la patrie révolutionnaire avait trompé les masses aveuglées, à cause des passions charnelles et parce qu'aussi j'étais manipulé par des forces occultes, maçonniques et sataniques au final. Nous avons vu que ces masses, même avec une intention chrétienne subjective, n'avaient pas servi objectivement la volonté de Dieu. Et bien sûr qu'il y a eu des chrétiens trompés qui ont été héroïques dans ce conflit, d'ailleurs des deux côtés, mais cela était subjectif. Objectivement, ils n'ont pas œuvré au bien de l'humanité, au bien de la chrétienté. Car Dieu ne veut pas le règne de la maçonnerie. C'est évident. Dieu ne veut pas le règne de la franc-maçonnerie. Et ces guerres-là n'ont fait que fortifier le règne de la judéo-maçonnerie. En 1914, le cardinal Lorenzelli confiait à Mgr Baudrillard, ce savant ecclésiastique dont nous avons parlé la dernière fois, voici donc ce que ce cardinal romain disait au cardinal français. « Votre alliance avec l'Angleterre et la Russie, c'est l'alliance du diable. Votre guerre, c'est la guerre des assassins. Vous vous battez pour défendre les assassins de l'archiduc Ferdinand. C'est le gouvernement serbe et le ministre de la Russie qui l'ont fait assassiner. » Et le cardinal Luçon, un autre cardinal, donc à Rome, confiait au même prélat, Mgr Baudrillard, ceci, que le monde du Vatican craint que notre victoire ne soit celle de la franc-maçonnerie, de la révolution, de l'école sans Dieu, et surtout le triomphe de la Russie, pire que le Turc. Certains étaient clairvoyants, car en effet, c'est ce que nous avons eu. Le règne de la franc-maçonnerie, le règne de la révolution, l'école sans Dieu, etc. Et nous nous demandions donc la dernière fois, alors pour qui donc sont vraiment morts ces millions d'Européens qui croyaient mourir pour la patrie, la justice, la liberté, la civilisation? Pour qui sont-ils morts et pourquoi? Eh bien, pour le savoir, le plus simple et le plus rapide est de vous lire un large extrait d'une longue déclaration de Benjamin Friedman. Elle a été faite en 1961 à l'hôtel Willard de Washington et elle a été publiée dans un magazine qui s'appelait Common Sense, sens commun. Benjamin Friedman a été un témoin direct de cette époque et un familier de nombreuses figures marquantes, aussi bien dans les lobbies que dans le gouvernement américain. Et devenu un homme d'affaires new-yorkais assez réputé, milliardaire ou millionnaire, je ne sais plus, en tout cas à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il l'a rompu avec ses anciens amis, s'est converti et il a consacré sa fortune à combattre le sionisme international, car il s'agit de cela, vous allez le comprendre. Maintenant, je lui laisse la parole. Je ne ferai que quelques rares commentaires. Benjamin Friedman. Permettez-moi de vous raconter ce qui s'est réellement passé, tandis que nous étions tous endormis. La Première Guerre mondiale survint durant l'été 1914. Cette guerre fut menée d'un côté par la Grande-Bretagne, la France, la Russie et de l'autre côté l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie. En l'espace de 2 ans, l'Allemagne avait remporté la guerre. Non seulement elle l'avait remportée nominalement, mais aussi réellement. Les sous-marins allemands, qui furent une totale surprise pour le monde, avaient balayé tous les convois de l'océan Atlantique. La Grande-Bretagne se trouvait sans munitions pour ses soldats, avec une juste et seule semaine de ravitaillement. Et après cela, c'était la famine. Au même moment, l'armée française s'était mutinée. Elle avait perdu 600 000 soldats à la fleur de l'âge dans les batailles de défense de Verdun et de la Somme. L'armée russe avait déserté. Quant à l'armée italienne, elle s'était littéralement décomposée. Durant exactement la même période, pas un seul coup de feu n'avait été encore tiré en territoire allemand et pas un seul soldat ennemi n'avait encore franchi la frontière allemande. Pourtant, l'Allemagne proposait un accord de paix. Elle offrait à l'Angleterre une paix négociée. Cessons le combat et retournons aux conditions d'avant-guerre. C'est celui qui gagne qui dit ça. Il dit, allez, je reviens. Durant l'été 1916, l'Angleterre considérait sérieusement cette proposition. Il n'avait d'ailleurs pas le choix. Tandis que cela se discutait, les sionistes, ce sont des juifs, de l'Europe de l'Est, rencontrèrent le British War Cabinet aux États-Unis. Je vais être bref car ceci est une longue histoire, mais je détiens tous les documents prouvant mes déclarations. Ces juifs, ces sionistes, dirent donc, écoutez-nous, vous pouvez encore remporter cette guerre. Ne baissez pas les bras, vous n'êtes pas obligé d'accepter la proposition de paix faite par l'Allemagne. Vous pourriez gagner cette guerre si l'Amérique venait à vos côtés en tant qu'allié. Les USA étaient alors hors du conflit. Nous étions jeunes, nous étions innocents, nous étions puissants. Ils disent alors à l'Angleterre, nous, c'est-à-dire les juifs sionistes, nous vous garantissons d'embarquer les USA contre l'Allemagne dans cette guerre si vous nous promettez la Palestine après la victoire. En d'autres termes, ils firent ce pacte. Nous nous chargeons de ramener les USA en tant qu'alliés, mais le prix à payer sera la Palestine, bien sûr, après la défaite de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie. L'Angleterre avait autant de légitimité de promettre la Palestine à quiconque qu'en auraient eu les USA de promettre le Japon à l'Irlande. C'est aussi stupide que cela. Et pourtant, c'est ce qui s'est fait, pour quelque raison que ce soit. En octobre 1916, cette promesse fut faite malgré tout. Peu de temps après cela, et je vous rappelle que nous sommes dans la guerre du droit, hein. C'est la guerre du droit. Nous sommes évidemment dans l'imposture. Peu de temps après cela, les USA, qui étaient presque totalement pro-allemands, soudainement entrèrent en guerre aux côtés des Britanniques. Je le répète, les USA étaient quasiment pro-allemands, parce que les journaux étaient tous contrôlés par des juifs. Les banquiers étaient juifs. Toute l'industrie des masses médias et de l'information dans ce pays était sous contrôle juif. C'est un juif qui parle, hein, converti, connaît son domaine. Et il s'avère que les juifs étaient pro-allemands à cette époque, avant ce retournement soudain. Et ils ne rêvaient que d'une chose, ces juifs américains, voir les Allemands faire abdiquer le tsar russe. De tout temps, les juifs n'ont jamais aimé le tsar de Russie, et ils ne voulaient pas le voir remporter la guerre, d'où ce soutien à l'Allemagne, puisqu'elle se battait contre la Russie. Ces banquiers juifs allemands, comme Kund and Loeb, et beaucoup d'autres banques américaines, simplement refusaient de financer la France ou l'Angleterre du moindre sou. Par contre, ils versèrent des sommes colossales à l'Allemagne. Ils avaient choisi leur camp depuis le début de la guerre. Ils dirent, tant que l'Angleterre et la France sont liées avec la Russie, ils n'encaisseront pas le moindre dollar. Ils procurèrent à l'Allemagne des fonds monétaires pour défaire la Russie. Donc ces mêmes banquiers juifs, réalisant la possibilité de décrocher la Palestine, se rendirent en Angleterre et firent ce pacte. À ce moment précis, tout changea. Soudainement, les Allemands devinrent mauvais. Tout d'un coup, ils étaient horribles. Maintenant, c'était des uns qui se mettaient soit à tirer sur les ambulances de la Croix-Rouge, soit à découper les mains des enfants. Bref, une propagande de guerre utilisée par le bourrage de crâne des masses médias, puisqu'ils avaient les masses médias en main. Ils pouvaient très bien dire « l'Allemagne c'est magnifique, et donc là le tsar de Russie est une catastrophe », puis « ah, on change de politique, de stratégie », non, on va dire maintenant « défendons le tsar, attention l'Allemagne, c'est très grave », etc. C'est aussi simple que cela. Donc c'était une campagne de diabolisation médiatique qui s'est mise en route aux États-Unis, un bourrage de crâne, une propagande, par des montages photos ou par des textes. Hein. Aujourd'hui, on fait la même chose avec des vidéos. Dans toute guerre, vous le savez, hein, il y a des crimes de guerre. Il faut être naïf pour croire que seuls des Allemands auraient été capables de crimes de guerre, que les autres n'en sont jamais capables. Et demandez aux habitants d'Hiroshima et de Nagasaki si les bombes atomiques venaient de l'Allemagne. Donc, je reprends Benjamin Friedman. Peu de temps après cela, le président Wilson déclara la guerre à l'Allemagne. Et là encore, on est sur une imposture considérable. 1917, c'est les élections aux États-Unis. Wilson a fait sa campagne d'élection en promettant de ne pas faire rentrer les États-Unis dans le conflit. Il était le candidat de la neutralité, de la paix. Et dès qu'il a été élu, il a fait le contraire de ses promesses. Combien de fois on a vu ça en démocratie, en République ? Il est élu sur un programme où il promet une chose, on lui fait confiance, il fait le contraire. La guerre du droit, le monde de l'imposture. Voilà comment les USA entrèrent dans la Première Guerre mondiale. Nous n'y avions aucun intérêt, nous n'y avions aucun droit d'être dans ce conflit. Il n'y avait aucune raison pour que la Première Guerre mondiale soit notre guerre. On nous piégea et on nous y emmena à notre insu. Parce que le bien du peuple, il s'en fiche. C'est une oligarchie aujourd'hui qui gouverne, qui cherche ses intérêts purement privés et qui ne sont pas les intérêts du bien commun ou du peuple. Nous étions, dit Benjamin, le dindon de la farce, le pigeon d'une arnaque tendue par le sionisme international, tout simplement pour qu'il puisse s'accaparer la Palestine. Ceci est quelque chose dont le public américain n'a jamais entendu parler. Ils ne furent jamais informés de la cause de notre participation à la Première Guerre mondiale. Après avoir fait entrer l'Amérique dans le conflit, les sionistes s'en allèrent au British War Cabinet et en Angleterre, et ils tinrent à peu près ce langage. Voilà que nous avons effectué notre part du marché. Nous voudrions avoir quelques garanties écrites prouvant que vous honorerez à votre tour votre part du contrat et que vous nous céderez la Palestine. Ils imaginèrent alors cette fameuse déclaration de Balfour, qui était simplement la promesse anglaise faite aux sionistes pour l'accord que ces derniers avaient passé pour embarquer les USA dans ce conflit. Donc, Lord Balfour, la déclaration de Balfour vient de Lord Balfour, qui était un représentant du gouvernement britannique et qui adressa à Lord Lionel Walter Rothschild, vous connaissez tous, une lettre dans laquelle il indique en effet que le Royaume-Uni est favorable à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Comme ça que ça va commencer. Benjamin Friedman. Cette grandiloquente déclaration Balfour, dont vous entendez parler abondamment, est aussi factice qu'un billet de banque de jeu de Monopoly. Pour essayer d'être plus explicite, c'est la base de toute notre crise. Les USA se jetèrent tête baissée dans la Première Guerre mondiale et l'Allemagne fut écrasée. Bien sûr, après cela, vous savez ce qu'il advint. À la fin de la guerre, les Allemands s'en allèrent pour signer l'armistice à Paris, à la fameuse conférence de paix de Versailles en 1919. Il y avait là, dit Benjamin Friedman, il y avait là 119 juifs représentant le sionisme international, et à leur tête Bernard Baruch. J'y étais à cette fameuse conférence de paix à Versailles. Je dois donc bien le savoir. 119 juifs représentant les intérêts du sionisme international. Que s'est-il donc passé ? Durant cette conférence, l'Allemagne fut découpée et l'Europe divisée. Les sionistes aussi réclamèrent leur part du gâteau, en prétendant « Ne nous aviez-vous pas promis la Palestine ?» C'est alors qu'ils produisirent leurs preuves, révélant pour la première fois la déclaration Balfour, devant les yeux des Allemands ébahis. C'est seulement à ce moment précis que les Allemands réalisèrent le genre de piège qui leur avait été tendu et la vraie cause de l'entrée des USA dans ce conflit. Ils comprirent alors l'étendue du coup qui leur avait été asséné et la cause des terribles conséquences et des réparations de guerre qu'on leur infligea. Tous les malheurs venaient du fait que les sionistes voulaient la Palestine et étaient prêts à tout pour l'avoir. Comme aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour la garder. Ceci nous mène directement à un autre point. Quand les Allemands constatèrent les faits, bien sûr, ils s'en indignèrent. Il faut signaler qu'avant cet événement, les Juifs ne s'étaient jamais sentis aussi libres qu'en Allemagne. Vous avez M. Rathenau, qui était là-bas peut-être 100 fois plus important en industrie et en finance que Bernard Baruch, ici, aux États-Unis. Vous aviez M. Balin, qui possédait les deux plus grandes lignes maritimes, la North German Railroad et la Hambourg American. Vous aviez encore M. Bligh Roeder, qui était le banquier de la dynastie impériale des Hohenzollern. Vous aviez les Warburg à Hambourg, qui étaient de grandes banques du négoce, peut-être les plus importantes du monde. Sans aucun doute, on peut affirmer que les Juifs se portaient comme un charme en Allemagne. Les Allemands ne pouvaient pas digérer ce qui leur avait été fait et prirent cet accord secret pour une parfaite trahison. Eux, qui ont été si généreux avec les Juifs depuis 1905, date qui vit la première révolution communiste en Russie tournée au désastre quand les Juifs ont dû fuir de la Russie pour trouver refuge en Allemagne. Pour ça qu'ils ne pouvaient pas supporter le tsar, parce que la première révolution communiste faite par certains Juifs a échoué. Et avec des répressions, évidemment. Et voilà qu'ils vendent maintenant l'Allemagne dans une combine pour aucune autre raison que s'accaparer la Palestine en tant que soi-disant foyer juif. Tout était politique, tout était économique. Souvenez-vous, je vous le dis souvent, cette phrase du Christ dans l'Évangile, ce sera ou le Christ ou Mammon. Ou le Christ, le règne de l'esprit, ou Mammon, l'esclavage de la matière et de l'argent. Ça va être ça, si vous apostasiez, si vous refusez le Christ, si vous me refusez moi, votre Seigneur, vous aurez Mammon. Tout était politique, tout était économique. Il n'y a aucune guerre du droit, il n'y a rien de tout ça. La Première Guerre mondiale avait été déclenchée contre l'Allemagne sans aucune raison. Elle n'était coupable d'absolument aucune faute, sauf à être excellente. Ils bâtirent une grande marine, ils établirent un commerce mondial. Vous devez vous rappeler que l'Allemagne, au temps de la Révolution française, consistait en plus de 300 petites villes, états, principautés, duchés et ainsi de suite. 300 petites entités politiques éparpillées s'étaient consolidées en un seul état, ceci en l'espace de 50 ans. Ils devinrent une des plus grandes puissances mondiales. Leur marine rivalisait avec la Grande-Bretagne. Ils commerçaient tout autour du monde et étaient en mesure de surclasser n'importe qui avec une plus grande qualité dans la production. Que s'est-il donc réellement passé? Il y eut une conspiration entre la Grande-Bretagne, la France et la Russie pour liquider l'Allemagne. Le problème, tout était politique et économique. Il n'y a pas un historien au monde qui pourrait trouver une raison expliquant pourquoi ces trois pays décidèrent subitement de rayer l'Allemagne de la carte politique. Fin de citation. Nous sommes donc, vous rendez compte, très bien, très loin de la guerre du droit présentée par la propagande judéo-républicaine. Certes, l'Alsace-Lorraine est redevenue française, mais à quel prix? On a récupéré 1 100 000 Alsaciens lorrains. Et on a perdu 1 500 000 Français. C'était ça le prix à payer pour que l'Alsace-Lorraine soit française? Donc au prix d'innombrables vies sacrifiées et pire, pour quelle unité? Puisque cette guerre a principalement servi l'expansion de l'idéologie maçonnique et les droits de l'homme. Car au nom des droits de l'homme, au XIXe siècle, souvenez-vous-en, au XXe siècle, au début, eh bien, le gouvernement républicain et maçonnique a persécuté non plus de manière sanglante comme dans la Grande Révolution en 1789, mais à persécuter réellement les Français qui étaient majoritairement catholiques, par une persécution administrative et législative, par une persécution donc qui mettait les catholiques hors la loi, chez eux, majoritaire. Réalisez bien l'imposture. Ils ont mis les catholiques dans une démocratie censément être le pouvoir de la majorité du pays. Ils ont exclu de la vie politique cette même majorité. On est là dans l'imposture. Au nom des droits de l'homme, 430 ordres religieux ont été dissous, 30 000 religieux et religieuses exilés, 14 000 écoles catholiques fermées. Les officiers qui allaient à la messe étaient privés d'avancement. On cassait l'élite. Et pareil dans la magistrature, épuration. Donc au nom des droits de l'homme, les crucifix étaient enlevés des lieux publics en France. En 1905, l'Église a été pour une deuxième fois en 100 ans complètement spoliée, volée de tous ses biens. Pie VI, ce pape clairvoyant de la Révolution française, a très bien vu toute la nocivité spirituelle, économique, temporelle même des droits de l'homme. C'est une arme de destruction aux mains de Satan, une arme de destruction de l'humanité qui rend fou les peuples et qui est aux mains de Satan. Elle a permis jadis de neutraliser, donc de détruire la France catholique, les catholiques de la France catholique. Et aujourd'hui, elle continue son œuvre de destruction en détruisant, en neutralisant, en détruisant les Français en France eux-mêmes. Les Français eux-mêmes chez eux, en France. Par un gigantesque remplacement de population ou par l'ouverture des frontières, tout ça c'est au nom des droits de l'homme. On a supprimé, vous connaissez cet adage, on a supprimé le surnaturel, on ne gardera même pas le naturel. Parce que c'est lié, c'est le surnaturel qui protège le naturel en fait. Même si c'est le naturel qui fonde le surnaturel. En 1789, on a chassé le surnaturel. La France a apostasié, il n'y a plus de surnaturel. Et aujourd'hui, la France, enfin plutôt la doctrine des droits de l'homme, continue à détruire même le naturel. 200 ans plus tard, 200 ans après la Révolution, on a le mariage pour tous, on a la France pour tous. Vous êtes contre ça, mais vous êtes contre... c'est au nom des droits de l'homme. C'est au nom des droits de l'homme qu'on fait tout cela. Donc la France a cessé d'être catholique, et aujourd'hui, elle cesse même d'être française. Attendez dans 20 ans, dans 50 ans, on verra. L'erreur capitale depuis 200 ans chez les catholiques, c'est d'avoir perdu de vue, massivement, ils ont perdu de vue que la République, c'était la Révolution. Et que par conséquent, elle est intrinsèquement opposée au christianisme. C'est son œuvre, c'est sa raison d'être, c'est sa création. En France, il n'y a donc pas de pacte possible avec la République, parce que c'est la Révolution. On peut bien la tolérer. Là, on n'a pas le choix. Il y a une violence qui nous est faite, on la tolère. On subit une violence, mais on ne peut pas la respecter comme légitime. Et c'est ça qui a été perdu de vue. C'est ça qui a été perdu de vue. Et donc cette erreur fut partagée par trop de catholiques, d'évêques même, et pratiquement favorisée par des erreurs qui peuvent être compréhensibles, mais qui restent des erreurs, par le concordat avec Napoléon, par une restauration bancale. La restauration de Louis XVIII n'était pas propre, était bancale. Elle ne pouvait que échouer et faire plus de mal au final. Par le ralliement suicidaire à la République, par Léon XIII, imposé par Léon XIII. Et rares sont ceux donc qui ont vu que le monde a radicalement basculé en 1789. C'est une étape dans l'apostasie qui annonce la fin du monde. Je ne peux pas vous la dire quand, et je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Mais en tout cas, il y a un basculement de l'humanité avec 1789. Cette idéologie mensongère, sanguinaire, satanique, a pris possession et prend de plus en plus possession des intelligences. Et elle détruit intelligence, patrie, religion. Le processus révolutionnaire enclenché donc par le père du mensonge, permis par Dieu, ira jusqu'au bout. C'est une logique de destruction. Et il enlèvera donc de plus en plus aux hommes le discernement et la sagesse, par une permission divine, en raison de nos péchés. Car les hommes ne veulent plus servir Dieu, ils sont majoritairement esclaves de Mammon. C'était lié. Le Christ nous avait prévenu, c'est ou moi ou Mammon. Je pense qu'il était instructif donc d'insister sur cette imposture du passé pour mieux nous faire saisir les impostures du présent et du futur. Qu'aurions-nous fait en 14-18, ça Dieu seul le sait, on ne peut pas de la fiction ou de la science-fiction. Nous aurions probablement suivi les masses. Tout chrétien que nous sommes, puisque c'est ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on... Peut-être qu'on aurait été plus clairvoyant que la masse, mais probablement on aurait suivi la masse. Probablement. En 1793, on nous a dit de nous battre, soi-disant, pour la liberté. En 1914, soi-disant, pour la patrie. En 1939, soi-disant, pour la civilisation, etc. Demain, on va nous demander, un jour, de nous battre, certainement, pour notre idole. Même si ce n'est pas la guerre, d'une autre manière, pour un nouveau mensonge. Et les masses, nous le voyons, sont peu clairvoyantes, elles jugent trop souvent selon les apparences. La réalité profonde nous échappe. Parce que d'abord, ça demande trop d'efforts, trop de temps, aussi de, trop de connaissances que, nous pouvons, que la masse ne peut pas avoir. Et puis aussi, à la décharge de la masse, la plupart des hommes n'ont pas la malice des fous de l'oligarchie qui nous gouverne. La plupart des gens n'ont pas cette méchanceté dans le cœur ils ne peuvent pas imaginer que certaines personnes sont capables de faire durer une guerre 3 ans de plus, de faire 3 millions de morts de plus pour leur intérêt, pour de l'argent, pour de la puissance. Non, la plupart des gens ne peuvent pas imaginer ça. Et pourtant, cela existe. Les masses, donc, sont faites pour être dirigées. Et tout le problème de savoir qui dirige les masses, tout est là, en fait. Qui dirigera ? Il y aura toujours une élite qui va diriger une masse. Ça, c'est logique, c'est inévitable. Mais qui dirige ? Avant 1789, les Français étaient dirigés par une famille française catholique. Qui s'en sort tout. Bien sûr que cette famille avait ses défauts et ses péchés. Mais c'était une famille qui gouvernait les autres familles, famille française catholique. Après 1789, il y a eu le chaos qu'on sait, et puis après, surtout la révolution de juillet en 1830, eh bien, c'est la mafia financière, c'est les banques qui ont commencé à gouverner les élites. Et la politique, nous le verrons, n'existe plus. En 1937, un homme avisé écrivait « La démocratie n'est que le paravent de la dictature juive ». Et cette constatation, eh bien, rejoint le témoignage de Benjamin Friedman que nous avons évoqué. Je conclue. Depuis 1789, les ennemis du Christ dirigent les destinées de l'humanité pour notre ruine à tous. Puisque les hommes veulent majoritairement vivre sans Dieu et sans loi, eh bien, il était inévitable qu'ils soient dirigés par les ennemis de Dieu pour leur plus grand malheur. Puissions-nous, en tout cas nous, ne pas coopérer dans ces desseins antichrist. Et pour cela, eh bien, il est plus que jamais utile pour notre salut de nous souvenir de ces consignes évangéliques et apostoliques. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ? Et qu'est-ce que l'homme pourra donner en échange de son âme ? Ou cette autre phrase, « Nous n'avons pas ici-bas, dit Saint-Pierre, de cité permanente, mais nous cherchons celle que nous devons habiter un jour. » C'est cela qui nous permettra de ne pas perdre le cap. C'est ces pensées-là, il faut en vivre, sinon on peindra le cap. Bref, il faut se détacher des créatures pour s'attacher au Créateur. Bref, il faut fuir les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, ce que saint Paul nous disait aujourd'hui. Partout, votre foi en Dieu, eh bien, s'est fait bien connaître. Nous n'avons pas besoin d'en parler, car vous vous êtes convertis des idoles au Dieu vivant et vrai, pour le servir et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous sauve de la colère qui vient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.